Donc aujourd'hui, on va continuer le thème par rapport aux églises de l'Apocalypse. Donc on est arrivé à l'église de Philadelphie, on arrive dans la sixième lettre et le titre c'est Tiens ferme. On va voir de l'importance de tenir ferme. Tous ces messages, comme on l'a vu dernièrement, sont là pour nous encourager, pour nous avertir à continuer de faire les choses selon le Seigneur. Il est dit dans le chapitre 1, verset 3, Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et qui les entendent et qui obéissent et qui écrit dans leur livre, car le temps est proche, le temps est proche. Et je crois qu'on veut vraiment continuer de prier, d'intercéder, parce qu'on sait que le temps est proche et on a besoin de prendre ces paroles, de les entendre, de les écouter et de pouvoir aussi agir en conséquence. Donc, ouvrons notre Bible pour aller voir justement qu'est-ce qu'il est dit dans l'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. Apocalypse, ouvrons notre Bible, il y a des Bibles en arrière aussi, pour pouvoir voir aussi ce que le Seigneur veut nous dire. Voilà, donc il est dit, verset 7, à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais. Tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne les membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ils ne sont pas. Ils mentent. Je leur ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Verset 10, tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Verset 11, je viens bientôt. Tiens ferme de ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, le Nouvel Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que de mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, on veut te remercier pour ce moment aussi de pouvoir, à travers ta parole, que, Seigneur, nos cœurs, nos oreilles puissent être attentives à ce que tu veux nous dire. Seigneur, on te remercie parce que tu nous as préparés à travers ce temps de louange, de prière, Seigneur, de venir dans ta présence, de pouvoir goûter, Seigneur, à quelque chose de merveilleux de ta part. Et nous voulons maintenant, Seigneur, regardez à travers ta parole ce que tu veux nous dire. Que ces paroles, Seigneur, puissent pénétrer dans notre esprit, dans notre cœur, puissent vraiment faire une action, agir pour le bien de notre vie, pour que nous puissions comprendre, saisir et agir aussi en conséquence. Alors merci, Seigneur, que ce soit toi qui parles à travers ma bouche, que ce soit ton esprit qui nous convainc, Seigneur, ce matin. Nous te prions en ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, donc regardons brièvement, comme à chaque fois, un peu l'histoire de cette ville. On a besoin parce qu'on voit que généralement, l'histoire de la ville a une conséquence, une incidence sur l'Église. Donc, la ville de Philadelphie n'est pas très loin de Sardes. Donc, ce n'est pas une vieille ville par rapport aux autres villes qu'on voit dans l'Apocalypse, parce qu'elle a été fondée simplement juste 150 ans avant Jésus-Christ. La ville tire son nom de la réconciliation entre deux frères. Il y avait le roi de Pergame et le roi de Lydie. Et pour enterrer l'âge de guerre, pour fêter la réconciliation, ils ont construit cette cité entre les deux villes. Donc, à cause de sa situation géographique, cette région était favorable à l'agriculture, particulièrement à la culture du vin. Voilà pourquoi qu'on trouve dans cette ville le dieu du vin, qui est Dionysus. On ne sait pas très bien qui a fondé cette église de Philadelphie, mais on voit que cette église est un modèle. En toutes circonstances, elle s'est toujours appuyée sur la parole du Seigneur. Elle est restée sous l'obéissance à Dieu à tout moment. C'est la seule église, justement, avec Smyrne, qui ne reçoit pas, justement, de menaces ou d'avertissements. On le voit au verset 7. Que aussi cette introduction ou cette salutation de la part de l'Esprit à cette église est différente des autres églises. On voit vraiment que cette salutation, elle est comme tournée vers l'avenir. On le voit par rapport à, il dit par rapport à la clé de David. On voit justement, si vous lisez, vous pourrez lire chez vous, Apocalypse chapitre 5, verset 5, et chapitre 22, verset 16, où il est parlé justement de la clé de David, cette affiliation au roi David. Et on le voit aussi dans Apocalypse chapitre 6, verset 10, qui évoque aussi le Maître saint et véritable. Donc on voit que l'Esprit dit quelque chose par rapport à l'avenir, à cette Église. À cause de la fidélité, à cause de la persévérance, ils vont leur dire, ben voici ce que je promets pour toi, voici ce qui va se passer aussi pour votre Église. Elle va recevoir la couronne de vie, elle va recevoir le résultat de leur foi, le résultat d'avoir persévéré, de leur tenir ferme jusqu'au bout. Donc on regarde, on voit le mot saint et le véritable dans ce verset 7. Donc Jésus se présente comme le saint, le véritable, celui qui est la clé de David. On sait que ce mot saint désigne notre Seigneur, qui est saint et qui nous encourage à se mettre au service du Seigneur pour nous encourager à nous éloigner du péché. Ésaïe chapitre 6, verset 3 dit, s'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Donc les anges chantent la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu signifie pureté, aucun mélange, pur, parfait, sans défaut, sans péché. La tradition juive, le fait de dire trois fois saint, était comme une marque envers notre Seigneur. Saint, saint, saint. On proclamait la véritable sainteté de Dieu. Donc on doit reconnaître encore aujourd'hui, en premier, cette sainteté de Dieu, sur la terre et dans nos vies. Même si des fois on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire cette sainteté de Dieu, ou qu'est-ce que ça veut dire Dieu éternel aujourd'hui, on doit commencer par reconnaître Dieu trois fois saint. La sainteté de Dieu, la pureté de son amour, le parfait qui est sans défaut, sans péché, vient vers nous pour nous donner la vie. Puis on a le mot aussi véritable. Il a la vérité qui affranchit de la misère du péché. Jean 14, verset 6 dit, Jésus dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc Jésus est le véritable qui est aussi la vérité. Il ne donne pas la vérité ou ne transmet pas la vérité. Il est la vérité. C'est la seule raison qui nous pousse à aller vers Jésus-Christ. Parce que non seulement il nous sauve du péché, non seulement il nous donne une nouvelle espérance et une vie nouvelle, mais surtout il est la vérité, qui veut dire que nous sommes vraiment entre des bonnes mains avec le Seigneur. À cause de cette vérité, on peut s'approcher de lui sans crainte, parce qu'il ne va pas abuser de notre ignorance, il ne va pas nous manipuler comme certaines personnes le font aujourd'hui. Il nous dira la vérité, puisqu'il est vérité. Voilà pourquoi on a besoin de venir librement devant lui, pour simplement dire, Seigneur, tu es cette vérité. Je veux croire, je veux aller par la foi, je veux aller sans crainte avec toi, parce que tu es la vérité. Prochain diable, on voit qu'il est dit que celui qui a la clé de David. Ésaïe chapitre 22, verset 22 dit, « Je le chargerai donc de la clé du royaume de David, et quand il ouvrira, nul ne refermera, et quand il fermera, personne n'ouvrira. » Lorsque nous avons les clés de notre maison, on a le contrôle sur la maison. On peut savoir qui vient, tous ceux qui ne veulent pas, on ferme, on ouvre à ceux qui veulent. Jésus est souverain, il est le roi, c'est lui qui a le contrôle des clés, c'est-à-dire de la maison de Dieu. Le fait qu'il soit roi, qu'il est saint et sans péché, qu'il a les clés du royaume, nous démontre que nous devons mettre notre confiance en lui. Alors on ne va pas être déçu. On ne sera pas à côté de la plaque ou vieux jeu comme certains aujourd'hui pourraient le dire. Jésus va affirmer dans cette révélation de lui-même qu'il est la seule voie possible pour le salut de notre vie. Voilà pourquoi Jésus commence par cette affirmation de lui, pour rappeler à cette Église fidèle que c'est grâce à lui que cette Église n'a pas de défaut, que c'est grâce à la fidélité de la parole que l'Église peut être ce véritable témoignage sans tache et sans défaut. Et dans le prochain dia, il va continuer au verset 8 de dire des vérités essentielles. Regardez, il dit, « J'ai mis devant toi une porte ouverte. » C'est-à-dire que nul ne peut fermer une porte ouverte, comme on l'a lu tout à l'heure dans Ésaïe. Parce que le contrôle de cette église, c'est Jésus lui-même. On pourrait dire que c'est vrai, ça devrait être cela, que Jésus est le maître de l'église. Mais lorsque nous étudions les autres églises, justement, dans l'Apocalypse, on voit que ce n'est pas souvent le cas, que Jésus n'est pas encore tout à fait le maître complètement de ces églises. Voilà la réponse, que c'est seul Jésus qui peut nous sauver. C'est seulement par Jésus que l'Église va vivre et fonctionner dans la vérité et dans la sainteté. Aujourd'hui, on voit toutes sortes de sauveurs dans ce monde, autant dans le milieu chrétien que peut-être ailleurs. Les gens cherchent des hommes et des femmes qui vont les guider, qui vont avoir des idées révolutionnaires, qui vont les encourager pour avancer. Et dans le monde de l'Église, c'est la même chose. On va courir après des pasteurs, des évangélistes, des prophètes qui ont peut-être une voix beaucoup plus forte que les autres, qui ont un certain charisme. Et nous devons souvent, nous devons surtout suivre Jésus-Christ. Nous voyons aussi qu'il est dit dans ce verset, peu de puissance. Donc l'Église est victorieuse bien qu'elle ait peu de puissance. Donc avoir peu de puissance sous-entend qu'elle n'a pas forcément beaucoup de puissance selon les humains. Peut-être qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent, peut-être qu'elle n'avait pas de grand pouvoir, etc. Et que même elle ne le recherche pas. Sa puissance dans cette église locale de Philadelphie, elle la trouve ailleurs. Comme l'exemple de Paul, lorsqu'il a intercédé vers Dieu pour son mal qu'il avait. Voici la réponse de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, il dit, « Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, et dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ce que Jésus veut dire, que c'est plus important de ne pas avoir de la puissance et d'avoir beaucoup de puissance, mais être loin de la vérité. Il faut que nous soyons conformes à la parole de Dieu. On ne doit pas chercher le prestige. On ne doit pas chercher même le développement sans réellement avoir la vérité. Alors on peut être une petite église. On peut être une église qui n'a pas beaucoup d'éclat à l'extérieur. Une église qui peut être, aux yeux des autres, qui a peu de puissance, mais qui reste dans la vérité. On a besoin d'être ces églises qui ont peu de puissance, mais qui ont devant eux une porte ouverte que personne ne peut ouvrir, parce que c'est le Saint-Esprit, parce que c'est Dieu qui agit. Amen. Verset 13. Il continue dans le même verset. Tu as gardé ma parole. Donc, premièrement, cette église puise sa force dans la sainteté et dans la vérité de la parole. C'est-à-dire qu'elle est restée conforme aux enseignements de Jésus. Elle a gardé les doctrines qu'elle a reçues d'une façon juste, en adhérant complètement et sans mensonge. En Jean chapitre 5, verset 3, qui dit « Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. » On a besoin encore aujourd'hui, chacun de nous, de garder la parole juste, de s'y conformer en vérité, de garder ce que Dieu nous a mis sur notre cœur, ce que l'Église nous enseigne pour que nous puissions avancer d'une façon juste devant le Seigneur. Il est parlé aussi « Tu n'as pas renié le nom de Jésus. » La première chose que Satan, l'ennemi, veut faire, c'est extraire de toute église, tout chrétien, le vœu qu'ils soient consacrés entièrement leur vie à Christ. L'ennemi va venir par toutes sortes de façons nous distraire, nous enlever cette passion, ce désir de vivre selon la présence de Dieu, selon la parole de Dieu, selon la vérité de Dieu. L'ennemi veut que nous commencions à renier Christ. Luc chapitre 12, verset 9 dit, mais celui qui aura prétendu devant les hommes qui ne me connaît pas, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant les anges de Dieu. C'est un avertissement qui est dur, mais qui est vrai. Pour nous, encore aujourd'hui, on ne doit pas se laisser berner par Satan, qui peut-être nous préoccupe, qui nous met toutes sortes de choses dans notre vie, pour nous faire sortir de l'Église, nous faire sortir réellement de la relation sincère, de vérité que nous avons avec Dieu. Voilà pourquoi que nous devons jour après jour, dire à notre Seigneur, et à chaque instant, en toutes circonstances, « Oui, Seigneur, je suis avec toi. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Quel que soit ce qui se passe dans ma vie, je ne veux pas renier ton nom. Je veux toujours proclamer que tu es mon Seigneur, que tu es tout pour moi. » Donc, ces quatre phrases clés de cette église de Philadelphie possédaient, on peut aussi la rechercher aujourd'hui dans notre église. On a la clé de réussite, selon Dieu, si on se conforme à ces exigences, à ces points mentionnés. On ne va pas arriver par nos propres moyens, mais uniquement si c'est seul Jésus-Christ qui guide l'Église. Et ça ne s'arrête pas juste à l'Église, c'est-à-dire à l'ensemble de la communauté, mais c'est vrai pour chacun de nous, aujourd'hui encore ce matin. On doit chercher chacun de nous avant tout la vérité. On doit avant tout de garder la parole. On doit avant tout de viser la sainteté de Dieu avant la puissance, avant la reconnaissance, avant la visibilité. Quelqu'un a dit un jour, cette phrase qui est très intéressante, « Le travail de Dieu commence lorsque celui de l'homme finit. » Le travail de Dieu commence lorsque celui de l'homme finit. Lorsque l'homme dit « Seigneur, je ne suis plus capable. » Lorsque l'homme dit « Je n'ai pas de puissance pour rien faire. » Alors, c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Alors, c'est là que Dieu montre réellement qu'il est le Seigneur et le Sauveur. On a besoin d'avoir cette humilité. On a besoin de reconnaître que par nous, on ne peut pas avancer. Mais qu'on a toujours resté sous le regard de notre Seigneur. Prochain diable, on le voit au verset 9. Il est dit, « Eh bien, je te donne les membres de la synagogue de Satan. » Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent, « Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. » Cette église avait les mêmes problèmes que l'église de Smyrne, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de juifs dans cette ville qui les persécutaient, que les juifs disaient aux chrétiens qu'ils n'avaient pas la vérité. Et qu'est-ce que Jésus va promettre à ceux qui sont fidèles? Ils disent que ceux qui détiennent la vérité, ceux qui croient détenir la vérité comme les juifs, Dieu va les obliger à se mettre à genoux à terre devant le Dieu trois fois saint, devant le véritable, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ils seront obligés de reconnaître que l'Église qui persécutait ou ils se moquaient, ils étaient dans la vérité de Dieu. Même si eux, je dis juifs, qui sont dit nés d'Abraham, qui sont le peuple de Dieu, ils devront reconnaître que dans cette Église, c'est le véritable amour de Jésus qui est là. Jésus travaille à travers l'Église pour faire reconnaître son règne et sa gloire. Et on doit faire aussi aujourd'hui. Un jour, les gens vont reconnaître. Même si aujourd'hui ils décrivent l'Église, même si aujourd'hui ils ne sont pas intéressés, ils fuient l'Église, un jour ils sont obligés de reconnaître que Dieu, que Jésus-Christ travaille à travers l'Église pour qu'elle puisse continuer de rayonner, continuer de rendre gloire à Dieu seul. Donc dans le verset 10, il est parlé que cette Église avait gardé la parole de persévérance en Jésus. Cette Église avait reconnu Jésus comme le roi des rois. Mais ils n'ont pas simplement reconnu, ils l'ont vécu dans la vérité et dans la sainteté. Ils l'ont fait parce qu'ils ont persévéré malgré les difficultés et les épreuves. Ils n'ont pas fait de compromis, ni avec le monde, ni avec le prestige. Ils n'ont pas accepté de fausses doctrines, comme le reproche dans d'autres églises. Alors Jésus va leur promettre de les préserver des épreuves futures. Parce que cette église est restée fidèle, elle va être gardée et protégée des épreuves du futur qui pourraient la détruire. On sait que les épreuves et les difficultés vont venir sur chaque homme et chaque église. On vit tous des souffrances, soit la maladie, des situations difficiles, des problèmes. Beaucoup de chrétiens et d'églises n'ont pas pu résister devant ces épreuves. Non pas parce qu'ils n'ont pas pu venir voir, mais parce qu'ils n'ont pas été capables de garder la parole dans la fidélité et surtout dans la persévérance. Dieu promet de les garder dans ces temps-là, parce qu'ils ont persévéré jusqu'au bout. Encore aujourd'hui, Dieu peut nous préserver de certaines souffrances, certaines épreuves. Moi, je le crois. Oui, même si des fois l'ennemi essaye de nous déstabiliser à travers les épreuves et les souffrances, Dieu nous préserve. Combien de fois on a entendu des miracles, que ce soit des accidents, comment que des gens ont été touchés, ont été graciés. Peut-être que je vous ai parlé dans les temps de prière, d'un jeune enfant de 5-6 ans qui était dans le tracteur avec son grand-père qui était en train de passer la pirouette. Donc c'est une machine qui étend le point l'été, et par un trou dans le terrain, la fenêtre du tracteur s'est ouverte et l'enfant qui est à côté de son grand-papa est tombé et a passé à travers la machine. Des piquets qui sont comme ça, gros et comme ça. Ils l'ont amené à l'hôpital. Au début, il y avait plein de fractures. Ils disaient qu'il y avait plein de choses. Il y avait peu de chances qu'ils vivent après leur passé. Et les gens ont commencé à prier. On a même prié ici à l'église pour ce garçon. Et une semaine plus tard, quand ils ont refait les radios, il n'y avait plus aucune fracture. Il n'y avait rien. Il est pas, c'est comme s'il passait comme un élastique par, à travers ses pointeaux pour ne pas être atteint. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu nous préserve de certaines épreuves, de certaines difficultés parce que nous sommes avec lui. Et encore aujourd'hui, Dieu veut le faire. Voilà pourquoi qu'on a besoin de rester fidèle. Voilà pourquoi qu'on a besoin de rester saint dans la vérité. Dieu le voit. Et si on tient ferme jusqu'au bout, Dieu va nous préserver de d'autres difficultés afin qu'on puisse avancer avec le Seigneur. Au verset 11, prochain dia, nous donne la réponse pourquoi de garder cette persévérance. Je viens bientôt afin que personne ne prenne ta couronne. Je crois que Dieu va donner des récompenses à tous ceux qui sont restés fidèles et qui font la volonté de Dieu. Cette récompense n'est pas selon nos compréhensions d'avoir des cadeaux, des privilèges, d'avoir des meilleures maisons au paradis. Mais Jésus va récompenser ceux qui l'auront servi d'une manière spéciale jusqu'au bout, selon ses critères à lui. Alors l'important de ce verset, c'est pas d'avoir peur de perdre quelque chose, mais c'est surtout de tenir ferme jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est pas facile de le faire. On peut facilement se laisser gagner par la vie facile de ce monde. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, même encore aujourd'hui, se perdent dans ce monde. Et voilà pourquoi que l'église locale est là, pour justement nous aider à tenir ferme contre les ruses du mal. Chacun de nous, on joue un rôle important envers nos frères et nos sœurs, afin de veiller sur lui, de le soutenir, de prier, pour qu'il puisse continuer de marcher d'une façon juste et digne devant le Seigneur. Le verset, prochain diable nous le dit, verset 12. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que de mon nom nouveau. On voit dans ce verset quatre bouts de phrases importants qui nous parlent comment est-ce que nous allons recevoir cette récompense. Le premier, c'est une colonne dans le temple de mon Dieu. On sait qu'une colonne dans un bâtiment est importante. Une colonne qui peut permettre justement que le bâtiment soit solide. Surtout quand c'est un bâtiment qui a plusieurs étages. La colonne permet justement jusqu'en haut pour tenir le toit, pour tenir toute la structure. Nous sommes une colonne dans le temple de notre Dieu. Il veut nous dire que nous sommes cette colonne, c'est-à-dire une colonne qui est solide, qui reste ferme. Nous avons aussi le nom de Dieu lui-même. C'est un style littéraire pour dire que nous appartenons à Dieu. Le nom de Dieu va être gravé sur notre cœur, afin que l'ennemi voie que nous appartenons à Dieu. Lorsque l'ennemi va venir nous attaquer, il va voir que nous appartenons à Dieu et qu'il ne pourra rien faire contre nous. Il y a aussi le nom de la ville. On voit cette nouvelle Jérusalem. On est citoyen à part du royaume de Dieu. On le voit dans l'Apocalypse comment il est parlé souvent de cette nouvelle Jérusalem, de ce nouveau ville que Dieu va instaurer. On fait partie de ce royaume de Dieu. On a le privilège d'appartenir à ce royaume, à cette nouvelle Jérusalem, qui est belle et qui est éternelle. Et nous avons aussi le nouveau nom de Jésus. Nous serons avec lui pour l'éternité. Dieu nous donne un nom nouveau. C'est-à-dire que tout ce qui était avant, tout ce qui a été peut-être négatif, tout ce que peut-être qu'on pensait que c'était pas bon, ou qu'on pense qu'on n'était pas bon, qu'on avait une mauvaise estime de nous-mêmes, tout cela est derrière, parce qu'il nous donne un nom nouveau. Il dit, tu es un véritable enfant, fils, une fille du Seigneur. Mais pour avoir droit justement à cette récompense, il nous faut persévérer jusqu'au bout. De tenir ferme en toutes circonstances. De tenir ferme et d'avoir la confiance en notre Dieu, qui peut nous délivrer de la tentation du péché, qui peut nous délivrer de l'épreuve, de la difficulté qui peut survenir. Le prochain diacre, à la fin de chaque lettre, il termine par ce verset 13. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Si Jésus a amené à la fin de chaque lettre cet avertissement d'avoir des oreilles pour écouter, c'est qu'on en a besoin. On sait que les oreilles sont là pour écouter, pour entendre les avertissements, mais aussi entendre les encouragements que le Seigneur nous donne. Mais souvent, nous n'écoutons pas avec nos oreilles. Nous écoutons avec notre intelligence ou ce que nous aimerions entendre. C'est pourquoi Jésus veut que nous écoutions avec des oreilles attentives. Voilà ce que nous devons faire, comme cette église de Philadelphie. D'avoir cette attitude de dire « oui, j'ai peu de puissance ». De ne pas croire qu'on est capable de tout faire, de tout comprendre, que nous avons tous les moyens, toutes les ressources pour agir comme un puissant et de rester humble jusqu'au bout. Seigneur, j'ai peu de puissance, mais avec toi, je suis capable de marcher en avant. Tu as gardé ma parole, cette vérité de la parole de Dieu, c'est-à-dire d'agir dans toute la volonté de Dieu, dans tous les domaines de notre vie. Tu n'as pas renié mon nom, que nous n'ayons pas perdu la foi, qu'on n'a pas perdu notre premier amour pour Jésus, ne pas vivre selon nos standards. Tu as été persévérant. Même si peut-être on est tombé à la deuxième, troisième épreuve, on peut se relever pour aller jusqu'au bout, afin de demeurer dans l'amour de Dieu, malgré les difficultés et les épreuves. Alors simplement, fermons nos yeux maintenant et réalisons que nous pouvons être cette Église, chacun de nous, et nous dire, tenir ferme, tiens ferme jusqu'au bout. Le Seigneur sait exactement ce que vous allez vivre tout à l'heure, demain, après-demain, dans une semaine, dans un an, dans 10 ans. Il demande simplement, fais pas des projets sans moi. Même si tu penses que peut-être tu as beaucoup de potentiel, tu as beaucoup de qualité, reste sous mon regard. Parce que j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Si tu es persévérant, si tu gardes ma parole, si tu ne renies pas mon nom, même si tu as peu de puissance, je vais te montrer ce que je peux faire avec toi. Le Seigneur veut nous interpeller encore ce matin. Il veut encore que nous puissions dire encore chacun de nous, là où nous sommes dans notre cheminement, dire Seigneur, par mes propres forces, je n'arriverai pas à avancer. Il y a trop de choses qui se bousculent autour de moi. Il y a trop de tentations. L'ennemi arrive trop facilement peut-être me distraire, me faire tomber. J'ai besoin de garder ta parole. J'ai besoin de rester dans cette vérité. J'ai besoin de rester à l'essentiel, toi, le Seigneur. Ce matin, nous allons prendre la Sainte Cène comme un désir de nous rappeler ce que Jésus a fait. On a besoin de rappeler régulièrement tout ce que Jésus a fait sur la croix. Lui, le Fils de Dieu, a été capable d'aller jusqu'au bout. Il a persévéré pour tenir ferme dans la mission que son Père lui avait donnée. Il l'a fait par amour pour nous. Et il veut le faire encore par amour aujourd'hui. Quel que soit où nous sommes dans notre cheminement, quels que soient peut-être les fautes ou les manquements que nous avons ce matin, le Seigneur veut nous dire, quand tu t'approches de cette table, quand tu prends ces éléments, demande-moi pardon. Je veux faire quelque chose de nouveau avec toi. Je veux te donner un nom nouveau. Je veux graver ton nom sur mon cœur pour que tu y restes ferme. Alors là où vous êtes justement, simplement, parlez à votre Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse ouvrir votre intelligence, votre cœur pour comprendre qu'il veut encore ce matin faire une œuvre nouvelle en vous. En chacun de nous et en moi le premier. Oui, on a chanté, on a loué le nom du Seigneur, on a parlé, on a prié, c'est très très bon. Le Seigneur veut qu'on puisse persévérer pour vous tenir ferme. C'est ça le résultat du travail que Dieu fait en nous, si nous voulons le laisser travailler. Nous pouvons interpeller ce matin, venir à cette table pour reconnaître que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Connaître que nous manquons souvent, que par nos poches, nos péchés nous éloignent du Seigneur. Par nos manques de vigueur, de rigueur dans la parole, nous nous éloignons du Seigneur. Par nos faiblesses, souvent, nous tombons. Le Seigneur ne veut pas nous juger ce matin, il veut simplement qu'on puisse venir dans sa présence. De se rappeler qu'il a tout fait pour nous. Et qu'il le fait encore aujourd'hui, en 2023. Il veux encore que nous puissions réaliser que avec lui, nous allons avoir la vie. Nous allons prendre la prière de notre Père, chacun de nous, à haute voix, comme un signe de vouloir vraiment dire qu'on veut vraiment que le Seigneur puisse nous éclairer, puisse encore être notre Seigneur et notre Dieu. Nous allons tous ensemble, notre Père, que tu es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de quotidien. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Donc nous invitons simplement à vous lever, puis passer par le milieu, puis repartir par les allées de côté pour simplement dire, Seigneur, je me lève. Et je veux proclamer en venant prendre ces éléments qu'on va tous prendre après ensemble. Je veux prendre ces éléments pour dire, oui Seigneur, je veux tenir ferme. Je veux accomplir quelque chose de bien. Je veux te demander encore ta grâce et ton pardon pour que je puisse être restauré, pour que ma vie entière te glorifie. Seigneur. Alors, venons à cette table. Jésus nous invite à venir. Alors voilà, quand vous êtes prêts, simplement, vous pouvez vous lever et venir chercher les éléments et ensuite, on va les prendre tous ensemble. Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ était donné pour vous. Garde vos corps et vos âmes pour la vie éternelle. Prenez et mangez ceci en mémoire de Jésus-Christ, mort pour vous. Et nourrissez-vous de lui dans votre cœur par la foi avec action de grâce. De même après le repas, il prit la coupe et après rendu grâce, il leur en donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été versé pour vous, garde vos corps et vos âmes pour la vie éternelle. Buvez cette coupe en mémoire du sang de Jésus-Christ, répandu pour vous et soyez reconnaissant. Seigneur, on veut te remercier pour ce rappel à travers ce repas, tout ce que tu as fait pour nous. De nous rappeler encore aujourd'hui que tu l'as fait par amour et que tu veux encore que, Seigneur, ce sang puisse continuer à couler, Seigneur, pour nous purifier, pour nous laver. Que ce corps qui a été brisé, Seigneur, nous rappelle que tu as souffert pour nous donner la vie. Voilà pourquoi, Seigneur, en réponse, Seigneur, à ce don d'amour que tu as fait pour nous, nous voulons te dire, oui, Seigneur, on réitère notre engagement avec toi. Nous voulons, Seigneur, comme cette église de Philadelphie, rester ferme jusqu'au bout. Nous voulons remporter la couronne de vie. Nous voulons que lorsque, Seigneur, nous allons être en ta présence, tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, rentre dans le repos. Oui, Seigneur. On veut le temps, Seigneur, que nous sommes encore ici-bas. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, continuez de garder les yeux fixés sur toi. De garder ta parole, Seigneur. De rester dans cette vérité avec toi. De toujours, Seigneur, compter uniquement sur toi. Et non pas sur nos forces. Alors, merci. Merci pour ce rappel encore ce matin. Merci pour cet exemple de cette église locale qui avait peu de puissance, mais que tu as trouvé tellement de bons mots. Malgré les persécutions, malgré ce que les gens disaient, elle est restée fidèle, persévérante jusqu'au bout. Seigneur, nous voulons te dire, chacun de nous voulons te dire, oui Seigneur, aujourd'hui, je veux te rester fidèle. Je veux persévérer jusqu'au bout. Alors donne-nous cette force, donne-nous cette puissance qui vient de toi par ton esprit pour qu'on puisse rester fidèle à toi et qu'on puisse avancer avec toi dans la foi, dans la confiance que tu es là avec nous. Nous te prions, Seigneur, pour chaque personne ici présente, que ce soit sur Zoom, sur YouTube, Que Seigneur, tu puisses aller les visiter d'une manière particulière encore. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse leur montrer encore plus, jour après jour, comment ils peuvent marcher, comment ils peuvent continuer, Seigneur, de garder les yeux fixés sur toi. Comment que, Seigneur, tu veux qu'ils puissent vivre dans cette sainteté, de enlever, Seigneur, tout esprit négatif, tout, Seigneur, faux péché, Seigneur, qui les éloigne de toi. Donne leur Saint-Esprit cette force, cette vigueur d'avancer avec toi. Et nous allons remporter la couronne de gloire uniquement par toi. Alors nous te remercions, nous te louons aujourd'hui pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir le voir et de pouvoir l'expérimenter encore aujourd'hui. Et que Seigneur, que cette grâce, cette paix, cette puissance, Seigneur, que tu nous donnes, continue, Seigneur, d'être avec nous aujourd'hui, demain et jusqu'à ton retour. Et nous te louons toi seul. Merci pour tout. Amen.